Bon, lisons encore une fois dans la première épître aux Corinthiens, et cette fois dans le chapitre 10. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose, ou qu'une idole soit quelque chose? Non, mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Et puis dans le chapitre 11, encore à partir du verset 24. Que le Seigneur, milieu du verset 23, que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe aussi, après le souper, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusque-là. Dans les chapitres 10 et 11, on rencontre deux problèmes assez graves qu'il y avait parmi les Corinthiens. Mais ce qui est très beau, c'est que chaque fois, le problème qu'il y avait devient l'occasion pour Paul pour présenter la vérité. Et je suis très reconnaissant pour la vérité qui a été présentée à l'occasion de ces deux problèmes. Alors le premier problème, c'était l'idolâtrie. C'était la participation à soit des fêtes, soit des repas où on mangeait la viande qui avait été sacrifiée aux idoles. Et le deuxième problème n'était pas très heureux non plus. C'était un grand désordre. On célébrait la scène. On la mélangeait avec un repas normal. Peut-être on avait d'abord ce repas normal ensemble en tant qu'amis. Et à la fin, on disait, bon, alors on va encore rompre le pain. Mais c'était dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. Parce que pour ce repas normal, les uns apportaient une grande glacière, j'allais dire, un grand corbeil, un grand repas, avec beaucoup de vin et tout ce qu'il fallait. Et les autres, les pauvres, n'avaient rien. Et en plus, il y en avait ceux qui buvaient trop. Et finalement, on célébrait encore la scène. Et Paul doit dire, ce n'est même pas la scène, ce que vous faites. Mais cela devient l'occasion pour lui pour présenter ce que la scène veut vraiment dire. Alors, on peut encore être reconnaissant que Dieu a utilisé ces problèmes pour nous donner un exposé de ses pensées. Alors, pour commencer avec ce premier cas, dans le chapitre 10, peut-être vous dites, oui, mais on n'a pas ce problème. À Strasbourg, on n'a peut-être pas un temple d'idole. Bon, aujourd'hui, ça commence à changer. Il y a des choses qu'on n'avait pas autrefois en Europe. Mais vous dites peut-être qu'on n'a pas ce problème parmi des amis. Oui, mais le chapitre utilise cet exemple pour nous expliquer des principes qui nous touchent et qui sont très pratiques. Et en fait, le chapitre nous enseigne comment nous pouvons vivre cette communion dont nous avons parlé. Nous avons été appelés à la communion de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais comment vivre cette communion d'une façon pratique aujourd'hui? Et c'est là que nous avons cette vérité de la table du Seigneur. En fait, j'étais encouragé par quelques jeunes frères dans la pause qui m'ont posé des questions qui sont en fait répondues dans ce chapitre. Alors, peut-être un peu, regardez cela un peu. On a lu le passage central, ce court passage, versets 14 à 22. On pourrait dire que ce passage traite le sujet de la table du Seigneur. Mais j'aimerais d'abord montrer un peu comment Paul aborde ce sujet. Parce que si on commence à lire le chapitre, on a l'impression que le sujet c'est un autre. Parce que d'abord, il dit, vous ne devez pas être ignorant, premier verset, que nos pères ont été tous sous la nuée, et que tous, ils ont passé à travers la mer, et ils ont tous été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Alors, qu'est-ce que cela a à faire avec notre sujet? Il parle d'Israël. En fait, dans les 13 premiers versets, il donne plein d'exemples qui concernent l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et la première chose qu'il dit, c'est qu'ils sont tous passés par la mer, ils ont tous bu du même rocher, mais il suit cette phrase, oui, c'est verset 4 qui parle de ce qu'ils ont bu du rocher, et il dit dans le verset 5, « Mais Dieu n'a point pris plaisir en la plupart d'entre eux. » On pourrait donner un résumé comme ça. On pourrait dire ils avaient des privilèges, mais Dieu n'était pas plus. Alors c'est possible qu'on participe dans des privilèges extérieurs, mais cela ne veut pas dire que Dieu doit être plus ou content des croyants, comme c'était le cas ici. Et après cela, il montre cinq exemples, cinq choses qui sont arrivées pendant leur voyage. Alors la plupart d'eux, je pense, sont dans le livre de Nombres, ce qui montre encore une fois que Corinthiens et Nombres correspondent, ça marche ensemble. Dans le verset 6, il dit « Ces choses arrivèrent comme type de ce qui nous concerne. » Alors c'est très intéressant que ce que Israël a vécu dans le désert, ils ont vécu pour que Dieu ait des illustrations qui peuvent nous aider en tant que chrétiens. Et la première raison, c'est afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme ceux-là aussi ont convoité. Je pense que c'est une allusion à Nombre 11, où il disait « on n'aime plus la manne, on veut la nourriture de l'Égypte. C'était merveilleux là-bas. Alors c'était la convoitise de cette nourriture d'Égypte. Deuxième exemple, verset 7. Ne soyez non plus idolâtres comme quelques-uns d'eux. Ainsi il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour jouer. Alors là, une fois, ce n'est pas nombre, c'est Exode 32. Ils avaient fait le veau d'or et ils en ont fait une fête. Ils ont dit, ça c'est le Dieu qui nous a ramenés de l'Égypte et on va adorer ce Dieu-là maintenant. Parce que Moïse, il a disparu dans la montagne et on ne sait pas où il est. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il ne parle pas du veau d'or. Il parle seulement du repas. Il parle seulement de la fête. Alors c'est une préparation à ce qu'il veut dire aux Corinthiens. Parce que les Corinthiens voulaient dire, si on participe au repas idolâtre dans le temple des païens, ça ne fait rien. Parce que là, on mange seulement. On n'adore pas les idoles. Et c'est très intéressant que dans ce deuxième exemple, Paul dit, oui, il mentionne seulement le repas. Et il dit, mais ils étaient, en participant de ce repas, ils étaient déjà impliqués dans l'idolâtrie. On verra plus en détail plus tard. Verset 8, ne commettons pas non plus la fornication, comme quelques-uns d'eux ont commis la fornication, et il en est tombé en un seul jour 23 000. Alors, troisième exemple, on a une allusion à Nombre 25, quand le peuple était déjà dans les plaines de Moab, et Balaam, il a voulu maudire le peuple, Dieu ne lui a pas permis, alors il a fait autre chose, il a donné un conseil, il a dit, bon, faites aussi amitié avec les Israélites, et vous allez voir ce qui se passe. Ils vont faire la connaissance, ils vont finalement participer dans l'idolâtrie et aussi dans la fornication. Alors, juste une petite note parce qu'il dit, il en est tombé en un seul jour 23 000. Si vous regardez dans Nombre 25, il dit 24 000. Alors bien sûr, il y a des gens qui arrivent tout de suite et qui disent, ah, vous voyez, plein de fautes dans la Bible. Hein. Oui, mais ici, il dit en un jour. Dans Nombre 25, il ne dit pas en un jour. Alors il n'y a pas de raison pourquoi les deux ne peuvent pas être corrects. Mais c'est juste une petite note. On peut faire confiance dans la Bible. Verset 9, quatrième exemple. Ne tentons pas non plus le Christ comme quelques-uns d'eux l'ont tenté et ont prié et ont péri par les serpents. Alors ça c'est une allusion à Nombre 21 où on a posé la question, est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous? On a tenté Dieu et Dieu a envoyé ces serpents. Et cinquième exemple, verset 10, ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d'eux ont murmuré et ont péri par le destructeur. Alors, peut-être vous avez d'autres propositions, parce qu'il y a plusieurs occasions où les Israélites ont murmuré, mais peut-être ici, l'allusion est à Nombre 16, où il y avait Corée. Et Dathan et Abiram qui ont murmuré contre Aaron, Moïse et Aaron, et qui ont dit pourquoi c'est seulement Aaron qui est le sacrificateur, nous aussi. Bon, Dieu a parlé à tout le peuple. Alors c'est une image d'une révolte contre le Seigneur, parce que le Seigneur est le sacrificateur et le chef dans le ciel. Et si l'homme dit nous, on veut jouer ce rôle. Bon, finalement, c'est une attaque contre le Seigneur. Alors, il donne ces exemples pour montrer qu'il y avait un peuple de Dieu, ils avaient des privilèges extérieurs, ils participaient tous, mais cela ne veut pas dire que Dieu était content. Alors, tout cela prépare le passage, nous prépare pour le passage qu'on a lu. Juste rapidement, dans le verset 11, il dit « Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. » Si on lit le livre de Nombre, on se rend compte très rapidement que c'est très peu qui est rapporté. On a 10 chapitres de préparatifs, puis on a quelques événements dans les chapitres 11 à 20 à peu près, 21. Et après, ils arrivent, bon, il y a encore, oui, mais là, ils arrivent déjà dans les plaines de Moab, ils sont déjà presque au pays. Alors, Dieu a sélectionné, il a choisi exactement les événements qui servaient pour illustration pour nous chrétiens. Et c'est intéressant, il nous décrit avec cette expression, nous, à nous que les fins des siècles ont atteint. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul l'a écrit il y a presque 2000 ans. Pourquoi il dit que les fins des siècles étaient déjà venues, nous ont atteint déjà? Oui, parce que dans tous les siècles avant, Dieu avait testé l'homme, surtout Israël dans le désert. Et l'homme a toujours failli. Mais maintenant, Christ est venu, les tests sont terminés dans ce sens. Alors dans ce sens, les fins des siècles nous ont atteints. Alors nous vivons dans une période très importante. Maintenant, il veut tirer les conclusions, il veut dire comment appliquer cela aujourd'hui. Et maintenant, seulement maintenant, il nous dit quel est le problème, de quoi il veut parler dans ce chapitre. Verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alors, c'est ça le sujet. J'avais dit avant le sujet des versets 14 à 22 est la table du Seigneur. Maintenant, on lit le premier verset, mais il ne dit pas, attendez, je vais vous parler de la table du Seigneur. Il dit, fuyez l'idolâtrie. Oui, mais c'est à cause de ce que j'ai expliqué. Il y a un problème et il introduit la vérité de la table du Seigneur pour répondre à ce problème. Mais même avant de les avertir, je trouve très beau comment il s'adresse aux Corinthiens. Il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés. Peut-être on aurait dit autre chose. Mes frères égarés peut-être. Mais il dit non, mais bien-aimé. Il dit plus tard qu'il a écrit, dans la deuxième épître, il dit qu'il a écrit cette épître avec des larmes. Il a écrit par amour. Il dit même, le plus que je vous aime, le moins vous m'aimez. Pourquoi? Oui, parce que le vrai amour ne laisse pas partir le frère ou la sœur dans la mauvaise direction sans l'avertir. C'est peut-être aimable. Si je vous vois, je sais que vous voulez prendre le train pour Paris, mais je vois que vous entrez dans le train pour Marseille. Alors, peut-être je dis juste, ah oui, vous allez à Paris, d'accord, bonne route, Très aimable, ça paraît très aimable, mais ce n'est pas l'amour. L'amour disait, mais écoute, c'est la mauvaise voie, Alors, Paul, il avait un amour vrai pour les Corinthiens. C'est pourquoi il les a avertis et enseignés. Mais dans une bonne attitude. Ce n'était pas une attitude de critique ou de supériorité ou de fierté, mais par amour. Et l'exhortation, c'est fuyez l'idolâtrie. Je m'imagine que quand les Corinthiens ont lu ou entendu cela dans l'assemblée, ils étaient surpris. Pourquoi l'apôtre nous écrit fuyez l'idolâtrie? Je ne pense pas que eux, ils se seraient considérés idolâtres. Ils disaient non, des fois, on va au restaurant, quoi, au temple, pour manger de la viande. On ne prie pas aux idoles, on n'adore pas les idoles, on mange la viande. Et maintenant, l'apôtre écrit comme ça, fuyez l'idolâtrie. Mais il explique plus tard pourquoi il dit cela. D'ailleurs, fuyez, c'est très important de marquer cette expression. Ça veut dire mettre une distance maximale entre moi et ce que je dois fuir dans un minimum de temps. Quand j'entends ce mot, je pense souvent à ce soldat dans la Corée du Nord qui s'est mis dans un 4x4 et qui s'est dirigé vers la frontière avec la Corée du Sud. Cela a été capté sur vidéo d'ailleurs. Et il y a un moment où il faut absolument s'arrêter. Et lui, il a continué. Et les autres soldats l'ont remarqué, ils l'ont poursuivi tout de suite. Alors il a foncé, il est arrêté dans un fossé. Alors il est sorti de son véhicule, il a couru, eux ils ont tiré dessus, et il est tombé, mais avec ses dernières forces, il a encore franchi la frontière. Et la nuit, on l'a tiré et il a été sauvé. Mais c'était une personne qui savait ce que ça voulait dire de fuir. Avec toute sa force, aussi vite que possible. Et c'est quelque chose que la parole nous exhorte à faire dans des circonstances spéciales. Des fois, la parole dit résister. Par exemple, résister au diable, il s'enfuira de vous. Mais des fois, la parole dit il faut s'enfuir. Et c'est normalement dans des situations où on est tenté. Alors, dans le chapitre 6, il dit fuyez la fornication. Ici, il dit fuyez l'idolâtrie. 1 Timothée 6, fuyez l'amour de l'argent. Et 2 Timothée 2, fuyez les convoitises de jeunesse. Alors, ça veut dire la confiance en soi-même, fierté, etc. L'orgueil. Alors, c'est un des cas ici où on est tenté. Et là, la parole dit, c'est trop fort. Il ne faut pas essayer d'être plus fort que la tentation. Il faut s'enfuir. Alors maintenant, il dit dans le verset 15, « Je parle comme à des personnes intelligentes. » Je trouve très beau qu'il adresse les Corinthiens de cette façon. Plus tôt, il avait dit, est-ce qu'il n'y a pas un homme sage? Je crois dans le chapitre 6. Est-ce qu'il n'y a pas même un sage parmi vous, hein, que vous vous amenez au tribunal, etc. Mais maintenant, il dit, j'écris à des hommes intelligents. Alors, c'est une très bonne façon de présenter la vérité. Et aussi la correction. Il dit, pour ainsi dire, je vous présente ma compréhension du sujet et je vous traite comme des personnes qui ont de l'intelligence et je vous invite à juger ce que j'ai présenté. Il dit, même dans ce verset, verset 15, « Jugez vous-même ce que je vous dis. » C'est une bonne attitude, je crois que c'est une humilité qui ouvre les portes. Il ne vient pas d'en dessus en disant « Vous n'avez rien compris. » Mais il dit « Non, je parle à des hommes intelligents, jugez ce que je vous dis. » Mais après, il dit très clairement ce qui est la pensée de Dieu. Verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ ?» Quoi ? La coupe ? Je croyais qu'il voulait parler de l'idolâtrie. Il avait commencé en disant « Fouillez l'idolâtrie ». Il fait cette introduction, hein, « Bien-aimés frères, jugez ce que je dis et lis la coupe ». À première vue, ça n'a rien à voir avec le problème. Mais cela a beaucoup à voir avec le problème. Pourquoi ? D'ailleurs, il y a une petite question. Je suis sûr que vous rompez le pain d'abord. Après, vous buvez la coupe. Et dans Matthieu, Marc, Luc, 1 Corinthiens 11, c'est toujours le pain d'abord. Alors, c'est la deuxième surprise. S'il veut parler de la scène, pourquoi il commence avec la coupe ? Oui, mais la réponse pour ces deux questions, c'est la même. C'est parce que la coupe exprime, comme il dit ici, la communion avec le sang du Seigneur. Et si nous avons devant nos yeux que le sang du Seigneur a coulé, qu'il a donné sa vie, qu'est-ce qui est plus capable de nous arrêter dans notre pas si nous sommes impliqués, par exemple, dans l'idolâtrie? Qu'est-ce qui peut nous freiner si ce n'est pas la pensée au sang du Seigneur? Alors, il dit la coupe de bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire, coupe de bénédiction? Quand on vient le dimanche matin pour rompre le pain, on ne vient pas pour recevoir une bénédiction. Mais néanmoins, il appelle la coupe de bénédiction. Oui, parce que bénir, ça veut dire exprimer quelque chose de bon. En fait, dans la Bible, il y a deux sens de bénir, hein. On peut soit bénir Dieu, ça veut dire quelque chose de bon en relation avec Dieu, ou bénir un homme, ça veut dire qu'il reçoit quelque chose de bien. Comme avec Abraham, hein, Melchizedek, bénissez Dieu, bénissez Abraham. Alors, la coupe de bénédiction, oui, c'est une coupe qui nous rappelle le sang du Seigneur qui a coulé, et qu'est-ce qu'on peut exprimer que de bonnes choses, que du bien ? On peut exprimer ce que la mort du Seigneur a effectué pour nous. Dans ce sens, même si on ne vient pas pour être béni le dimanche matin, la coupe nous rappelle que le sang du Seigneur Jésus est la base pour chaque bénédiction que nous avons. Il y a même beaucoup de versets, je ne vais pas les regarder tous maintenant, qui en parlent. Nous avons été justifiés par son sang. Nous avons été lavés par son sang. Nous avons l'accès à Dieu par son sang. Nous avons été rachetés par le sang du Seigneur Jésus. Alors, toutes ces choses, nous avons reçues à cause de son sang. Mais il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, alors nous, ce n'est pas seulement celui qui rend grâce pour le pain et pour la coupe, mais ce sont nous tous. Nous sommes inclus. Nous bénissons, nous exprimons de bonnes choses quant à cette coupe. Mais il parle de la signification maintenant. N'est-elle pas la communion du sang de Christ. Alors quand je bois de la coupe, j'exprime tout simplement que c'était pour moi. Le Seigneur a donné sa vie pour moi. J'ai une part, je participe, je suis impliqué. C'est vrai que l'œuvre du Seigneur, c'est quelque chose qui s'est passé en dehors de nous, à la croix, mais je suis lié, j'ai communion avec son œuvre, avec ce qu'il a fait. Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Alors dans ce verset, le pain de la scène parle du corps du Seigneur Jésus, qu'il a reçu, comme il dit dans Hébreux, « Tu as formé un corps pour moi ». Dans ce corps, il a servi son Père, et puis dans ce corps, il a été crucifié, cloué à la croix. Et quand nous rompons le pain, nous exprimons qu'il est entré dans la mort, mais aussi nous exprimons, encore une fois, que c'était pour nous. C'est pour cela que nous mangeons de ce pain. Alors, ce pain de bénédiction, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Mais nous avons deux exemples ici, dans ce verset, d'un principe qui est fondamental. Et ce principe est à la base de l'argument de l'apôtre Paul pour avertir les Corinthiens. C'est quoi ce principe? On a vu deux cas où on fait quelque chose extérieurement. On boit de la coupe et on mange du pain. Et chaque fois, l'apôtre dit, cela a une signification. Cela veut dire, j'ai de la communion avec le sang, avec le corps du Seigneur. Et ça, c'est la base pour son argument qui suit. Et on va le découvrir tout à la fin de ce passage. Mais d'abord, il donne d'autres exemples, comme on verra à partir du verset 18. Mais d'abord, le verset 17, il dit, « Car nous, qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. » Ça touche un peu sur ces questions qui ont été posées pendant la pause. Comment on peut vivre cette communion aujourd'hui? Qui est-ce qui comprend ou qui est-ce qui est vraiment inclus dans l'Assemblée de Dieu à Corinthe ou à Strasbourg? Je pourrais dire plus facilement quel est le chemin de Dieu aujourd'hui. Au début, c'était plus facile, hein? Disons, à Jérusalem, il y a beaucoup de croyants. Tous ensemble constituaient l'Assemblée de Dieu à Jérusalem. Certainement, ils se réunissaient dans des maisons différentes parce qu'ils étaient bien trop nombreux pour se réunir à un endroit. Mais ils étaient en communion les uns avec les autres. Mais comment aujourd'hui? Ici, en face, on a une cathédrale. Si on marche un peu, je suis sûr qu'on trouve d'autres bâtiments, d'autres églises. Et en plus, on a des dénominations qui n'ont peut-être pas un bâtiment d'église, mais qui se réunissent encore séparés des autres. Alors aujourd'hui, c'est plus compliqué à cause de cette dispersion, cette fragmentation, entre ces divisions entre croyants. Alors, est-ce qu'il y a encore un chemin aujourd'hui? Bon, il y a ceux qui disent, oui, mais c'est une variété, c'est beau. Chacun peut choisir l'église qui lui plaît mieux. Oui, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. En fait, Dieu ne connaît pas des dénominations. Oui, il les connaît dans 1 Corinthiens 1 à 3. Et il dit que c'est une très mauvaise idée de se diviser, de former des groupes, etc. Mais c'est alors quoi le chemin? Où est-ce qu'il faut aller? Imaginez-vous une personne qui s'est convertie hier, qui lit la Bible, qui ne connaît pas la pratique des chrétiens. Maintenant, il a lu la Bible. Maintenant, il arrive ici. Il serait confus, hein? Où est-ce que je peux aller? Il y a tant de groupes. Alors, il y a d'autres qui disent, oui, alors aujourd'hui, ça ne marche plus. Au début, il y avait un chemin. C'était tous les croyants sur ce chemin, en communion les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Il y a d'autres qui disent, ah oui, mais à cause de cela, il faut commencer de nouveau. Il faut créer une super église scripturaire. Oui, mais même si c'était possible, ce n'est pas l'église que Dieu a formée et ce n'est pas tout le monde qui y vient. Mais Dieu dit, il y a quand même un chemin. Et on trouve ce chemin très facilement dans ce passage qu'on a lu. On pourrait dire qu'il y a deux principes, deux grands principes qui peuvent nous guider. Et le premier principe, c'est verset 17. Nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain. C'est une grande vérité. Nous sommes un seul pain. Un seul corps. Tous les croyants sont des membres du corps de Christ. Quelqu'un a écrit un traité qui s'appelle comme ça « Est-ce que vous êtes un membre et de quoi ?» Quelqu'un qui a été converti n'a pas besoin de devenir un membre de quel que ce soit parce qu'il est déjà un membre du corps de Christ. Alors c'est la première grande vérité, nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps. Maintenant, il faut faire attention un peu, car nous participons tous à un seul et même pain. Alors avec notre grammaire aujourd'hui, on pourrait penser que la deuxième partie, car nous participons tous, c'est ce qui nous constitue corps de Christ. Et ce n'est, bien sûr, ce n'est pas le cas. Il faut comprendre comme ça. Nous sommes un seul corps, car c'est ce que nous exprimons quand nous participons tous à un seul et même pain. C'est ça l'idée. Paul dit, mais réfléchissez un peu ce que vous faites chaque dimanche au moins. Vous avez un seul pain devant vous, et ça c'est un symbole. Et vous participez tous à ce pain et vous exprimez que vous faites partie du corps de Christ. Je ne l'avais pas compris en tant que jeune homme. J'ai un peu honte de l'avouer. J'avais déjà passé quelques années en écoutant tout ce que les frères ont dit en assemblée. Mais à un moment donné, j'avais cette idée que j'étais membre de la dénomination la plus biblique. Mais à partir de ce verset, on comprend que c'est complètement faux. On n'est pas membre d'une dénomination, on est membre du corps de Christ, et c'est ce qu'on exprime. Quand on rompt le pain, on exprime qu'on est membre de son corps. Alors, je vous dois le deuxième principe, hein, mais ça vient plus tard. Je peux oublier. Premier principe, l'unité du corps de Christ. Comme il dit dans Éphésiens 4, verset 4, il y a un seul corps. Maintenant, Paul dit dans le verset 18, « Considérez Israël selon la chair. » ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel ? D'abord, encore une fois, on se pose la question, pourquoi maintenant il parle d'Israël ? Il voulait parler de l'idolâtrie, maintenant il a parlé de la scène, et tout à coup il parle d'Israël. Oui, mais c'est justement parce qu'il veut donner un autre exemple pour le principe qu'on a déjà découvert. Le principe, c'est une action extérieure implique une communion intérieure. On boit de la coupe, on exprime communion avec le sang. On mange du pain, on exprime communion avec son corps. Et maintenant, il dit, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas tellement étrange, vous le connaissez même de l'Ancien Testament. Quand les Juifs ont mangé le sacrifice, sacrifice de prospérité, surtout, ce n'était pas juste un repas, ce n'était pas juste manger du pain, ou de la viande plutôt. Mais cela avait une signification. Et c'est pour cela qu'il dit dans Lévitique 7, verset 19, à la fin, là il parle de la loi du sacrifice des prospérités. Lévitique 7, 19 à la fin, « Quant à la chair, quiconque est pur mangera la chair. » Et on comprenait bien la raison derrière, pourquoi il fallait être pur. Oui, parce que ce n'était pas seulement un repas commun. Comme Paul dit ici, « Ceux qui mangeaient les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel ?» L'autel était très saint. Et il comprenait que l'action extérieure, manger du sacrifice de prospérité, exprimait « Je suis en communion avec l'autel. » Alors, on se rapproche en anglais, on dit la punchline. On se rapproche de l'argument final de l'apôtre. Hein? Verset 19. Que dis-je donc ? Que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose, aucune idole soit quelque chose, non. Alors dans ce verset, il se défend contre un argument que les Corinthiens pouvaient avancer. Ils pouvaient dire, on a bien compris que les idoles consistent de pierre ou de bois. Ils sont morts. Alors, si on place la viande devant cette idole, ça ne fait rien. Parce que l'idole, ce n'est qu'un peu de bois ou de pierre. Et pour cela, on est libre de le faire. Parce qu'on n'y croit pas. On ne croit pas aux idoles. Et c'est un argument qui paraît être très intelligent. On dit, non, je m'en sépare intérieurement, intellectuellement, je ne crois pas ce qu'eux, ils croient, alors ce n'est pas dangereux pour moi. Bon, qu'est-ce que Paul dit ? Paul dit, oui, vous êtes très intelligent, mais moi aussi j'ai compris ça. J'ai très bien compris que les idoles sont mortes. Ce n'est pas le problème. Que dis-je donc ? Verset 20. Il dit non, mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Alors il dit le problème, ce n'est pas ce que vous croyez vous-même quand vous allez dans ce temple pour manger la viande. Le problème, c'est ce que les autres croient. Et les gens qui fréquentent ce temple, ce sont des idolâtres. Ils prient aux idoles. Et derrière les idoles se cachent des démons. Et c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas résoudre le problème en disant « mais moi je n'y crois pas ». Le problème c'est qu'eux, ils croient, et quand on y va, on s'associe extérieurement avec cela. Alors il dit, à la fin du verset 20, « Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. »
Alors là, ils doivent avoir été choqués encore plus. Au début, quand ils disaient « fuyez l'idolâtrie », ils ont sans doute dit « oui, mais nous, on n'est pas idolâtres ». Mais là, c'est encore plus grave. Il dit « je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons ». Alors, dans la langue originale, on a deux expressions pour communion. Il y a une communion éloignée, extérieure, et il y a une communion étroite, intérieure. Et c'est très intéressant comme illustration. Dans Luc 5, on a les deux mots. C'est l'occasion où les disciples veulent pêcher les poissons. Et d'abord, ils parlent de leurs partenaires dans les autres bateaux. Et là, c'est la communion extérieure éloignée. C'était des collègues. Ils avaient le même travail, le même genre d'entreprise. Mais après, quand il y avait trop de poissons, beaucoup de poissons dans le filet, ils disent, ils ont appelé leurs partenaires pour les aider. Et là, c'est l'autre mot pour partenaire. Là, c'était ceux qui, on pourrait dire, qui étaient dans le même bateau, hein, qui étaient dans la même entreprise, qui travaillaient ensemble. Alors, ça, c'est la communion étroite. Et ce qu'on apprend dans notre passage, c'est peut-être le message central, c'est que la communion éloignée, extérieure, manger les sacrifices, exprime une communion étroite, intérieure, si on le veut ou si on ne le veut pas. Dieu dit, c'est ma perspective, je le regarde comme ça. Et c'est pour ça qu'il avertit les Corinthiens, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alors, il dit, vous ne pouvez pas. En fait, deux fois, il le dit. Mais je suis sûr qu'il pouvait. Certains parmi eux étaient en train de le faire. Mais Paul dit, moralement, vous ne pouvez pas. Il dit, ça ne marche pas ensemble. Les jeunes qui font l'informatique, ils diraient, ce n'est pas compatible, hein, comme des logiciels qui ne marchent pas ensemble. Alors Paul dit, ce que vous faites quand vous prenez la scène, c'est que vous exprimez la communion chrétienne avec le corps, avec le sang du Seigneur. Et cette communion chrétienne n'est pas compatible avec la communion que vous exprimez dans ce temple idolâtre. Alors, cela m'amène au deuxième principe. Peut-être vous dites, oui, mais c'est quoi comme principe, si on n'a pas de problème d'idolâtrie, nous? Oui, mais je vous propose un autre nom pour le problème. Ce que les Corinthiens avaient, ce n'était pas un problème d'idolâtrie, mais un problème d'association. En allant à ce temple, ils étaient associés extérieurement à quelque chose qui n'était pas compatible avec la communion chrétienne. Et maintenant, nous comprenons que c'est un problème ou un principe très actuel. Alors, le premier principe, c'est il y a un corps, tous les croyants font partie de ce corps de Christ. Et le deuxième principe dit, oui, mais il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec la communion chrétienne selon la Bible. Tout simplement dit, les deux principes pour cette question, quel est le chemin aujourd'hui, c'est l'unité du corps du Christ et la séparation du mal. Alors, si on le voit comme ça, ce n'est plus tellement compliqué. Deux principes seulement, qui marche dans chaque époque, même aujourd'hui. C'est étonnant, j'ai vu une fois une représentation graphique des églises, des dénominations. Et bon, au début, il y avait seulement la vraie église. Après, on a fondé, si on veut, l'église catholique. Et pendant des siècles, il y avait celle-là. Puis il y avait la réformation, ça se divise en deux. Et après, ça devient un arbre avec beaucoup, beaucoup de branches. Je ne sais plus le nombre, mais aujourd'hui, on a des milliers de dénominations. Alors, le temps a changé complètement. On vit dans un monde complètement différent du temps du début de l'Église, mais Dieu nous donne des principes inaltérables qui marchent encore aujourd'hui. Écoutez, le corps est encore là, la séparation du mal est encore possible, alors c'est ce qui doit nous guider. Il termine par un avertissement d'agir contre cela. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Oui, bien sûr que non. Mais il veut dire que si on ignore cela et on prétend pouvoir faire les deux, participer à deux communions qui ne sont pas compatibles, il dit cela veut dire qu'on est en train de provoquer le Seigneur qui est jaloux. En fait, la jalousie n'est pas toujours mauvaise, hein. Si je suis jaloux de mon frère parce qu'il a une voiture plus rapide que la mienne, oui, ce n'est pas bien. Mais il y a une jalousie qui est justifiée, comme par exemple un mari est jaloux de l'affection de sa femme, et à l'envers. Et c'est dans ce sens que Dieu est jaloux de notre affection, et on ne doit pas le provoquer. Alors, l'occasion était une occasion triste, l'idolâtrie, mais l'enseignement que l'apôtre Paul donne est un enseignement très beau. Il introduit la table du Seigneur. Une table parle de communion. J'aime penser à la table de David et le privilège pour Méphibosheth d'être à sa table pour toujours. Ou j'aime beaucoup la table de Salomon. Un roi 4, je crois, à peu près. C'était pas mauvais d'être à sa table. Mais la meilleure chose de la table, ce n'est pas la bonne nourriture, mais c'est la communion. C'est la pensée de la table dans la Bible. Et nous sommes invités à nous réjouir de cette communion et à exprimer cette communion. Et pour moi, c'est très encourageant de voir 1 Corinthiens 1, vous avez été appelés à la communion de son Fils, caractérisé par son Fils. Et maintenant, nous posons la question, mais comment cela peut être exprimé pratiquement? Et nous voyons, même aujourd'hui, c'est possible. Il y a encore la communion à la table du Seigneur. Pour résumer, on pourrait dire que la table du Seigneur a 3 caractéristiques. Parce que des fois, je vais ajouter ça, des fois il y a la question, mais qui a la table du Seigneur? Est-ce que vous dites que vous avez la table du Seigneur? Alors, on peut faire 2 fautes là, hein. Une faute, c'est de dire, oui, la table du Seigneur est partout. Et l'autre faute, c'est de dire, c'est nous qui l'avons. Alors ma réponse, c'est toujours la même. Je dis, oui, qui a la table du Seigneur? Oui, évidemment, c'est le Seigneur qui a la table du Seigneur. C'est sa table. Mais l'Écriture nous donne 3 caractéristiques. Alors si quelqu'un me demande, où se trouve la table du Seigneur, je ne donnerai pas forcément une adresse. Mais je dirais, voici trois marques, trois caractéristiques. Premier, unité du corps de Christ. Deuxième, séparation du mal. Et le troisième, oui, ça s'appelle comment ? Elle s'appelle comment cette table ? La table du Seigneur. Alors c'est l'autorité du Seigneur. Et je suis convaincu que cette table existe encore aujourd'hui, où ces trois principes sont respectés. Alors, le temps est parti, mais juste très rapidement. J'avais déjà expliqué que dans le chapitre 11, l'apôtre aborde sur un autre, parle d'un autre problème, le désordre, quand les Corinthiens ont célébré la scène, pris la scène. Il prend cela comme occasion pour expliquer la vraie signification. J'aimerais terminer avec cela, de montrer peut-être trois aspects de la scène qui sont très précieux et qui nous ont été préservés jusqu'à aujourd'hui. On a lu dans le verset 24, 23 d'abord, que le Seigneur, la nuit qu'il fut livré. J'aime beaucoup cette expression, la nuit qu'il fut livré, parce que cela touche nos cœurs, non ? C'était la nuit quand Judas arrivait avec la foule, avec des lumières et des armes, comme s'il voulait prendre un brigand. Ce mot « livré » apparaît beaucoup de fois dans l'histoire des souffrances du Seigneur. Il était livré aux nations, dans les mains des pécheurs, aux sacrificateurs, etc. On l'a passé, on l'a donné pour qu'il souffre. Et Paul mentionne cela pour toucher nos cœurs, parce que la scène, c'est aussi une question d'affection. Alors dans cette nuit, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors c'est quelque chose de très personnel. Il dit « C'est pour vous personnellement. » Et il dit « La vraie signification de la scène, c'est en mémoire de moi. » Ce n'est même pas... Bon, bien sûr... Ce n'est pas un repas commun, mais ce n'est même pas un repas pour de commémoration de ma conversion ou de mon salut. C'est précieux, hein, qu'on était éloigné de Dieu, il nous a rapprochés, comme on était ennemis, il nous a réconciliés. C'est très beau. Et l'amour du Seigneur, c'est la base. Mais le but, ce n'est pas de nous souvenir de ça. Le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors c'est sa personne qui est devant lui, devant nous. Ses souffrances, ses perfections, comment il a honoré Dieu le Père dans toutes ses souffrances. De même, il prit aussi la coupe, après le souper, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Alors, il ne dit pas ici que le Seigneur a conclu la nouvelle alliance en donnant la coupe. Je ne crois pas que cette alliance soit déjà conclue. Elle sera conclue dans l'avenir avec Israël. Et Israël, comme peuple, recevra les bénédictions que Dieu a promis à Abraham. Mais sur quelle base Dieu peut faire ça ? Sur la base de la mort du Seigneur. Et maintenant, c'était un grand énigme dans les temps de l'Ancien Testament. Comment Jérémie, il peut dire un jour, je vais vous chasser du pays, Nebuchadnezzar, il va venir, vous allez aller dans la captivité, c'est fini. Et le lendemain, Jérémie se lève et dit, ainsi dit l'Éternel, je fais une nouvelle alliance, je vais vous bénir, je vais vous pardonner tous les péchés. Comment c'est possible? Maintenant, le Seigneur donne la réponse. Il dit, cette coupe, c'est la réponse. C'est mon sang qui sera versé pour vous. Mais la même chose s'applique à nous. Comment Dieu a pu nous bénir, nous sauver? Oui, c'est sur la base de cette coupe de la nouvelle alliance. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Alors, c'est en mémoire de lui. Et deuxièmement, on annonce quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on annonce et à qui? Bon, on annonce la mort du Seigneur, il dit dans le texte. Mais à qui? Je pense que c'est très large. En principe, c'est tous les hommes. Peut-être même inclus les anges. C'est toute la création intelligente. Et peut-être vous dites, mais oui, mais les hommes ne se rendent pas compte. Je crois que oui. Le dimanche matin, les rues sont très calmes. Et la plupart des gens qui se déplacent, ils se déplacent pour la scène. Et je crois que les voisins savent très bien ce que nous faisons quand nous sortons de notre maison chaque dimanche la même heure. Et on a le même message chaque semaine, la mort du Seigneur. C'est la réponse à toutes les grandes questions qu'il y a. Vraiment? Je pense que oui. Prenons les questions. Pourquoi il y a tant de mal dans le monde? Oui, parce qu'on a mis le Seigneur dehors. Comment on peut résoudre tous les problèmes? Oui, il faut recevoir le Seigneur. Comment je peux avoir la paix? Oui, la réponse, c'est la mort du Seigneur. Quand est-ce que ce monde sera gouverné comme il faut? Oui, c'est sur la base de la mort du Seigneur. Il a tout acquis, il va régner. Alors, la solution est toujours la même. Et c'est notre message. Et il vaut. C'est pourquoi ça vaut la peine ou le coup d'annoncer ce même message chaque semaine. Nous annonçons la mort du Seigneur. Et puis il ajoute, jusqu'à ce qu'il vienne. Bon, il y a quelques ans, dans la région où j'habite, on commençait à avoir des doutes si ce serait vraiment possible de le faire jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Parce qu'il y avait le Covid, et on disait, ah, c'est trop dangereux. Il y avait des endroits où on a interrompu pour quelques semaines, quelques mois. Et en même temps, nous avons su, le Seigneur, en fait, il a dit quelque chose de très clair. Il a dit que même si le monde change complètement, les circonstances changent, il souhaite toujours la même chose, que nous prenions la scène jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, c'est aussi un élément. Je ne dirais pas que quand nous prenons la scène, nous annonçons son retour, sa venue, mais quand même nous en sommes conscients. Nous rompons le pain, nous buvons la coupe, et en pensée, nous sommes déjà un peu dans le ciel, et nous pensons, on aura le même sujet. On chantera le cantique nouveau, et le contenu est déjà le nôtre. Aujourd'hui. Et la différence, c'est qu'à ce moment-là, on n'aura plus besoin de signes. On aura l'agneau comme immolé devant nos yeux. Mais on se rappellera la même chose. On se rappellera sa mort, son œuvre qu'il a accomplie pour son Dieu.
169, strophe 3. Que ta souffrance.